إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نقرأ كتاب أصول في التفسير للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والآن إن شاء الله تعالى سنشرع في قراءة موقف العلماء من الإسرائيليات. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. ألف: فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل notre étude du livre Fondement du Tafsir du grand savant Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc on va rentrer aujourd'hui dans le sous-chapitre yani concernant toujours ce qu'on appelle Al-Israiliyat. Al-Israiliyat, comme nous l'avons dit dans le cours de notre passé, هي الأخبار المنقولة من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. طيب، الأخبار المنقولة من أو عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى. On avait dit donc que les Israéliates la semaine dernière sont les informations qui ont été rapportées des enfants d'Israël parmi les Yahoud, et ce sont yani la majorité de ces Israéliyats ou des An-Nasara, des chrétiens. Donc, il faut savoir ici la position des savants justement à l'égard de ces Israéliyats. Il dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala que les savants et surtout les exégètes Al-Mufassiroun, ils ont divergé yani, au sujet de ces Israéliyats en trois positions ou trois avis. La première, certains d'entre eux ont mentionné énormément de Israéliyats. Ils ont mentionné dans leur tafsir énormément de Israéliyats, mais tout en les accompagnant de leur asanid, c'est-à-dire de leur chaîne de transmission. Et donc ceux qui ont fait ça parmi les exégètes, ils sont d'avis que, à travers le fait de mentionner les chaînes de transmission, eh bien cela les décharge du coup de leur responsabilité. Et parmi ceux qui ont fait ce genre de choses, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullahu ta'ala. طيب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: موقف العلماء من الإسرائيليات، وقد علم مما سبق أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم شهد شرعنا بصدقه فهذا يصدق لأن شرعنا شهد به، والثاني شهد بخلافه فهذا لا يصدق، والثالث لم يرد شرعنا بنفيه ولا إثباته فهذا يتوقف فيه. Donc pour résumer ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière, la position des ulama, des savants par rapport des israéliyats est que déjà, on a vu que les israéliyats se subdivisaient en trois catégories. La première catégorie, celle pour qui notre législation est venue confirmer les israéliyats, que notre législation islamique, à travers le Coran et la Sunna, est venu confirmer. Donc ces israéliyats-là, nous allons bien sûr les confirmer. Pourquoi? Parce que notre législation, encore une fois, vient les confirmer. La deuxième catégorie, les israéliyats que notre législation est venue infirmer. D'accord? Qui est venue infirmer, réfuter, ou dire le contraire. Donc ces israéliyats-là, nous allons les infirmer et ne pas les accepter. Et nous dirons donc que la vérité se trouve dans le Coran et la Sunna. La troisième catégorie, les Israéliyats que notre législation n'est venue ni confirmer ni infirmer. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait? On a dit, on ne prend pas position et nous disons seulement, nous croyons en ce que Allah Jalla wa Ala a descendu yani, sur Moussa et sur Isa, alayhi salam, et sur les prophètes des Bani Israël, alayhi salam. Taïeb. Non. Fahada. قال شيخ موقف العلماء مراده بذلك استعمال العلماء للإسرائيليات هل هم يكثرون منها أو يقللون وهل يعتبرونها أو لا يعتبرونها هذا هو المقصود بهذه الترجمة فالعلماء رحمهم الله منهم من أكثر منها لكنه ذكرها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه إذا ذكرها مقرونة بأسانيدها خرج من الأحدة ولكن قد يقال إن هذا فيه نظر لأنه إذا ذكرها قد لا يتيسر للقارئ أن يراجع أصولها ويعرفها ولكن يعتذر عن ابن جرير وأشباهه بأنهم والله أعلم لم يكن لهم فراغ في تمحيصها وتحريرها وخافوا من ضياع الصحيح منها فقالوا يعني نثبتها ولعل الله Donc, par contre ici, on ne parle pas de ces trois catégories que l'on a mentionnées la semaine dernière, mais on va parler d'autre chose. Lorsqu'il dit la position des ulama ici dans ce sous-chapitre, il veut faire allusion à l'utilisation des savants de ces israéliyats dans leur tafsir notamment. Est-ce que ces savants les ont beaucoup utilisés ou au contraire les ont peu utilisés? Est-ce qu'ils les prennent en considération ou est-ce qu'ils ne les prennent pas en considération? Vous voyez, ça c'est donc l'intention ici de l'intitulé de ce sous-chapitre qui est, je vous le rappelle, la position des savants à l'égard des Israéliyats. Donc les savants, rahimahumullah, certains parmi eux ont mentionné énormément d'Israéliyats. Mais malgré ça, ils ont quand même cité leur asanid, leur chaîne de transmission. Et donc, ils sont d'avis que, en citant leur chaîne de transmission, eh bien, ils se déchargent ainsi de leur responsabilité. Mais, yani, malgré ça, il dit le cheikh Al-Uthaymeen, c'est à revoir. Parce que, lorsque il mentionne ces chaînes de transmission, il se peut que les lecteurs n'a pas la possibilité, malgré tout, de revenir aux sources, de revenir aux références et de connaître ces sources-là de base. Voyez? Donc cela ne suffit pas en gros. Mais il dit Ibn Jarir et ses semblables sont excusés, wallahu a'lam, pour le fait que ils n'avaient sûrement pas le temps et la capacité yani, d'examiner toutes ces chaînes de transmission de manière approfondie et de pouvoir nous sortir vraiment une étude détaillée de ces chaînes de transmission-là. Et peut-être qu'ils les ont mentionnées malgré tout, car ils avaient peur que des textes authentiques yani, se perdent et s'égarent. Donc ils se sont dit, sûrement, nous allons les mentionner. Peut-être que Allah Jalla wa Ala fera venir un jour quelqu'un qui va les vérifier et qui va donc les étudier et pouvoir ainsi peut-être distinguer entre ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est authentique ou ce qui est inventé. Wallahu a'lam. والقسم الثاني منه من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب ليل مثل البغوي الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعية والآراء المبتدعة وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. Deuxième catégorie, dit le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit parmi les savants, certains ont également mentionné beaucoup de Israéliyat, mais en revanche, eux, ils n'ont pas mentionné des chaînes de transmission dans la plupart des cas. Et donc, ceux qui font cela, il dit le cheikh, ils sont comme des ramasseurs de bois la nuit. C'est comme s'ils ramassaient le bois la nuit. D'accord? Ça, c'est une expression qu'utilisent yani, les savants hein, pour mentionner notamment celui qui prend tout ce qui vient à lui yani, sans regarder si la chose, si l'information, elle est véridique, elle est fiable ou pas fiable. Donc, c'est comme s'ils ramassaient du bois la nuit. Il se peut que qu'ils ramassent. Au lieu du bois qu'il ramasse, il y a un serpent qui va le mordre. Voyez? Donc on les appelle cela Hatibul Layl. Il dit le Cheikh, on a l'exemple de l'imam Al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, sur lequel dit Cheikh l'Islam, rahimahullah ibn Taymiyyah, à propos de son tafsir, le tafsir de Al-Baghawi, rahimahullah, ils disent déjà c'est un résumé du tafsir de Al-Tha'labi. Mais Al-Baghawi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même protégé et sauvegardé son tafsir de tout hadith mensonger et de toute opinion yani, innovée. Alhamdulillah. Puis il a dit, à propos de Al-Thalabi, justement, il a dit, c'est lui, c'est un Hatibul Layl, c'est un ramasseur de bois nocturne. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il a transmis yani, tout ce qu'il a pu trouver dans les livres de tafsir. Comme israéliyat, comme texte, que ce soit des textes authentiques ou des textes faibles ou même des textes mensongers, wallahu al-musta'an. Fa hadha huwa al-qism al-thani, ay man akthara minha wa jarradaha min al-asanid ghaliban. Wa hadha aqallu rutbatan min al-awwal, li'ann al-awwal yadhkuru al-asanid wa bi-imkan al-insan an yuraji'aha wa ya'rifu al-sahih min al-dha'if. لكن هذا لا يذكر الأسانيد. طيب فكان حاطب ليل مثل البغوي رحمه الله تفسيره فيه إسرائيليات كثيرة لا يذكر لها إسنادا ولا تعقب بها أو لا يتعقبها لكنه في اللغة جيد وتفسيره تفسير تجزئة ليس كبعض المفسرين يذكر الآيات الكثيرة ثم يذكر المعنى مجملا بل تفسيره تفسير تجزئة جملة جملة ومفيد لطالب العلم لكن ما أحد إلا وله هفوة فهو في الإسرائيليات لا يهتم بها ولا يذكر أسانيدها ويقولها هكذا وقال شيخ الإسلام عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، لكنه أي البغوي رحمه الله صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، فكان بذلك خيرا من تفسير الثعلبي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن الثعلبي: إنه حاطب الليل، حاطب الليل ربما يعني يحمل مع حطبه ثعبانا يهلكه، ولا يتفقد ولا ينظر، ويأخذ ما هب ودب. ولذلك يضرب هذا مثلا لمن لا يكترث بالأمور ولا يحققها ولا يحررها. وقال: ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. طيب. Puis on a donc la deuxième catégorie, ceux qui ont mentionné, comme on a dit aussi, beaucoup d'Israéliyat, mais sans mentionner avec elles leur chaîne de transmission dans la plupart des cas. Donc ceux-là, ils sont à un niveau inférieur, un degré inférieur par rapport aux premiers. D'accord? Parce que les premiers, eux, ont mentionné, c'est vrai, beaucoup d'Israéliyat, mais quand même, ils ont mentionné avec leur chaîne de transmission. Ce qui permet quand même à certaines personnes de réviser, de vérifier ces israéliettes, ces chaînes de transmission, afin de voir si quand même ce qui a été rapporté est authentique ou faible. D'accord? Si la chaîne de transmission déjà elle est forte, ou au contraire, elle n'est pas acceptable. Alors que lui, non seulement il cite beaucoup d'israéliettes, mais en plus, il ne mentionne pas avec elles leur chaîne de transmission. Donc il est comme, on a dit tout à l'heure, « Hartibou Leil », comme le ramasseur de bois la nuit. Donc il a donné l'exemple de l'Baraoui, rahimahullah ta'ala. Il a dit que son tafsir contient beaucoup d'israéliettes. Et malgré ça, l'Baraoui, rahimahullah, n'a pas mentionné leur chaîne de transmission. Même si, au niveau de la langue arabe, c'est un tafsir qui est bien, mashallah. D'accord? Et c'est un tafsir, en plus, comme je l'ai cher, tafsirun tajzi'a. C'est un tafsir qui est détaillé, qui est vraiment détaillé. Contrairement à certains exégètes qui vont mentionner, par exemple, de nombreux versets, puis ils vont expliquer ces nombreux versets-là par quelques paroles de manière générale. Alors que le tafsir de l'imam ou le Baraoui, rahimahullah ta'ala, c'est un tafsir qui est tajzi'a. Un tafsir qui est vraiment morcelé, fragmenté, et c'est-à-dire très détaillé. Ni phrase par phrase, phrase par phrase. Donc c'est un tafsir, celui de l'Al-Barawi, qui est très, très bénéfique, très profitable pour les demandeurs de science. Mais, bien sûr, tout individu, comme vous savez, tout être humain, a des failles. D'accord? Et donc, ici, Al-Baraoui, par rapport aux Israéliyats, eh bien, malheureusement, il n'a pas accordé une importance particulière à l'authenticité ou à la vérification de ces Israéliyats. Et il les a donc mentionnés comme cela. Il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, par rapport au tafsir, justement, de Al-Baraoui, il dit, c'est un résumé du tafsir de Tha'labi. Mais, c'est-à-dire l'imam al-Baraoui, a quand même préservé son tafsir de hadith mensonger et d'opinions ou de paroles innovées, alhamdulillah. Donc forcément, il est quand même meilleur en cela que le tafsir de Tha'labi. Il dit justement, Cheikh l'Islam, par rapport à Tha'labi, il dit, il est Hatib al-Layl, c'est un ramasseur de bois nocturne. D'accord? Donc celui qui ramasse le bois la nuit, comme on a dit tout à l'heure, eh bien il se peut qu'il ramasse avec son bois, il ramasse un cobra, un python, un serpent qui va le tuer, qui va le mordre. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il ne vérifie pas, il ne regarde pas, il n'examine pas. Et il prend tout ce qui vient à lui comme ça, en fermant les yeux. D'accord? C'est pour ça donc, on a, les savants, Yanni, ils ont donné cette métaphore, si vous voulez, cette parabole, pour que on comprenne par là que c'est celui qui va prendre toute information qui viendra à lui sans chercher à vérifier, sans chercher à savoir le faible du authentique, le bon du mauvais. D'accord? Taïeb. Donc il dit ici, Tha'labi, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne faisait que rapporter tout ce qu'il a trouvé dans les livres de tafsir, que ce soit authentique, faible ou même mensonger. Wallahu al-musta'an. القسم الثالث منهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير مثل ابن كثير ومن العلماء من ذكر كثيرا منها أيضا وتعقب البعض مما ذكره بتضعيف أو الإنكار وهذا مثل ابن كثير رحمه الله لكن نقول تعقب البعض يعني لم يتعقب جميع الإسرائيليات الضعيفة بل تعقب بعضها وأنكره أشد الإنكار وهذا يعني أحسن من الذي قبله. La troisième catégorie, ceux qui ont mentionné aussi beaucoup d'Israéliates, mais ils ont mis quand même à la fin de certaines de ces Israéliettes, le jugement ou le statut de ces Israéliettes, soit en disant que ces Israéliettes-là sont faibles, ou soit en désapprouvant, yani carrément, le récit, comme l'a fait l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Donc parmi les ulama, certains ont mentionné beaucoup d'Israéliettes, mais comme on a dit, ils ont mis à la fin de chaque ou de certaines Israéliettes, يعني, par exemple, que l'information ou le récit il est faible, ou carrément ils ont désapprouvé ce récit-là en disant que le récit il est mensonger ou faible ou autre. Voyez? Comme l'a fait Ibn Kathir. Mais nous disons qu'ils ont fait ça pour certains, mais pas pour tous. Et pas pour toutes les Israéliettes qui sont, malgré ça, faibles en plus. D'accord? Ils n'ont pas mentionné leur faiblesse. Ça y est? Mais ils l'ont fait pour certains. Ils l'ont fait quand même pour certains. Ils sont allés jusqu'à même désapprouver et nier l'authenticité de certains de ces Israéliens rapportés. Donc, à partir de là, ils sont mieux quand même que la seconde catégorie ou la première. Non, que la seconde catégorie qu'on a vue tout à l'heure, juste avant. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que le quatrième? منهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد الرضا. Et enfin, la quatrième catégorie, certains d'entre eux, ils sont allés encore plus loin dans le rejet de ces Israéliyats et n'ont pas mentionné une seule Israéliyat dans leur tafsir du Coran, comme l'a fait محمد رشيد رضا نعم وظاهر أن غيره من المعاصرين مثله لا يعتبر إطلاقا بالإسرائيليات ويقول لا يجوز أن يفسر بها كلام الله جل وعلا ويعرض عنها إعراضا كاملا هذه أحوال العلماء بالنسبة للإسرائيليات. Donc, il dit le cheikh Al-Thaymi, rahimahullah ta'ala, ce qui est apparent, c'est que il y a donc Mohamed Rachid Rida, ainsi que d'autres que lui, parmi les savants contemporains, qui donc n'accordent aucune importance, voyez, de manière absolue, aux Israéliyats. Ils disent même qu'il n'est pas permis d'expliquer la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala, à travers ces Israéliyats, et donc ils les ont niés et rejetés de manière totale et absolue. Donc on vient de voir ici, on vient de voir les positions des savants à l'égard de ces Israéliyats. Non. ثم نشرع الآن في ذكر الضمير. الضمير في القرآن. فالضمير لغة من الضمور وهو الهزال. لقلة حروفه أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتار. Maintenant, on passe au chapitre suivant, qui est un chapitre qui est ici très important, mais qui demande un peu, voire beaucoup, de concentration pour pouvoir vraiment comprendre chaque parole du Cheikh, rahimahullah ta'ala. On va rentrer dans ce qu'on appelle al-dhamir. Al-dhamiru. Donc al-dhamiru, dans la langue arabe, c'est tiré de al-dhumur wal-huzal. C'est ce qui est, c'est la maigreur ou la chétivité. Taïeb, la maigreur, la chétivité. Donc al-dhamir, ça vient de là. Par rapport au fait que ces dhamair, ces dhamir, elles ont peu de lettres. Elles ont très peu de lettres. Taïeb. On peut dire aussi que c'est tiré de l'idmar, c'est-à-dire l'ikhfa, la dissimulation. Le fait de dissimuler, de cacher quelque chose. Et cela donc, par rapport, on pourrait dire par rapport au fait que ces dhamair, ces dhamir, sont, yani, sont cachés, sont dissimulés. Voyez, ça c'est donc d'un point de vue linguistique. Maintenant, d'un point de vue technique, je dirais, l'istilah. Donc le jargon technique, al-dhamiru, قال الشيخ ما كني به عن الظاهر اختصارا. ما كني به عن الظاهر اختصارا. وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. طيب. Donc, dans le jargon ici religieux, al-dhamiru, c'est ce qui va désigner quelque chose qui est zahir, qui est visible, qui est apparent. D'accord? Mais on va utiliser ce dhamir à la place du nom apparent pour rendre la phrase ou le propos concis. D'accord? Il y en a dans un but de concision. Nous allons utiliser à la place du mot, du nom apparent, on va utiliser ce qu'on appelle al-dhamir. Et avec les exemples, bien sûr, vous allez comprendre de quoi on parle, inshallah. D'accord? Certains disent également que dans l'istilah, dans le jargon, al-dhamiru, c'est ce qui va indiquer une présence ou une absence. Mais en n'utilisant pas les termes de la présence et les termes de l'absence. D'accord? Taïe. Faqala Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, al-dhamiru mawjoud bi kathratin fi l'ughad al-arabiyya wa fi l'Qur'an al-Karim wa fi sunan al-Nabawiyya fahuwa mushtaqun min al-dhumur wa huwa al-huzal kama qulna لقلة حروفه لأن حروفه قليلة في الواقع تجد مثلا بعضها على حرف واحد مثل واو أي و ومنه ما هو على حرفين هو ومنه ما هو على ثلاثة هما إذا لم نجعل الميم والألف علامة التثنية ونحن ثلاثة النون والحاء والنون نعم donc il dit le Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله تعالى الضمير c'est une chose c'est une, d'accord c'est une particule c'est un mot une chose يعني, qui est présente يعني, énormément dans la langue arabe dans Le Coran le Kérim dans la sunna prophétique, d'accord, dans les hadiths. Et donc, comme on a dit, Ad-Dhamirou, c'est tiré de Ad-Dhumour, ou Al-Huzal, c'est-à-dire la maigreur, la chétivité, donc par rapport au fait que ces Dhamair, elles ont pas beaucoup de lettres, d'accord? Elles ont pas beaucoup de lettres. Par exemple, on verra que certains Dhamair n'ont qu'une seule lettre. Par exemple, la lettre Waw. La lettre Waw, naam. Certains d'entre eux n'ont seulement que deux lettres, comme Hua. D'autres n'ont au contraire n'ont trois lettres, que trois lettres, comme Huma. Donc, Huma, on a trois lettres. On a le Her, on a le Mim, on a l'Alif. Il dit les chers, ça c'est si on considère que vraiment il y a le Mim et l'Alif en partie du Dhamir. Alors que si on dit que le Mim et le Alif sont au contraire les deux lettres de Tathniya, du duel, hein, Tathniya, eh bien dans ce cas-là, le Dhamir ne sera qu'une seule lettre. On a aussi Nahnu. Nahnu, yani, est composé seulement de trois lettres, le Noun, le Ha, le Noun, etc. Donc ça, c'est le Dhamir. Tout ce qu'on a vu là, Huwa, Huma, Nahnu, etc., ne sont que des Dhamair. Naam. طيب ثم قال شيخ فالدال على الحضور نوعان أحدهما ما وضع للمتكلم مثل وأفوض أمري إلى الله في سورة غافر قال جل وعلا وأفوض أمري إلى الله طيب والثاني ما وضع للمخاطب مثل صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم طيب وهذان لا يحتاجان إلى مراجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه هذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه Donc il dit, les choses, les dhamaïr, qui vont désigner la présence sont de deux types. Le premier, c'est ce qui va être mis pour désigner al-mutakallim, celui qui parle. D'accord? Celui qui parle. Tel que la parole d'Allah Jalla wa Ala, wa ufawwidhu amri ila Allah. D'accord? Dans le sens rapproché, et je confie mon affaire à Allah. Donc ici, le dhamir, il est où? Le dhamir, il est dans le ya. Le ya de amri, mon affaire. D'accord? Donc ici, amri, le ya, ici, c'est un dhamir qui va désigner al-mutakallim. Donc la présence, c'est une présence al-mutakallim, sans que l'on ait mentionné, donc, les termes désignant explicitement une présence. Yani le verbe hadara, mathalan, hadara. D'accord? Et le deuxième type de dhamir désignant la présence, c'est ce qui va être mis pour désigner el-mukhatab cette fois. El-mukhatab, c'est l'interlocuteur, c'est celui à qui on parle. Tel que la parole d'Allah dans la sourate al-Fatiha, Surat al-Ladina. An'amta alayhim. Donc, il est où le dhamir ici? Le dhamir, il est yani, dans le ta. Le ta de an'amta. Donc, le ta de an'amta, c'est un dhamir qui va désigner l'interlocuteur, al-mukhatab. Sans désigner, donc, ou sans utiliser, pardon, le terme de, encore une fois, al-hudur ou hadara. D'accord? Alhamdulillah. Donc, on a dit. Les dhamair qui vont désigner la présence sont de deux types. Soit un dhamir qui va désigner celui qui parle, al-mutakallim, soit un dhamir qui va désigner au contraire celui à qui l'on parle, al-mukhatab, l'interlocuteur. D'accord? Donc ces deux-là, ils n'ont pas besoin de référence, de ce qu'on appelle de marji'a. Ils n'ont pas besoin de marji'a, pas besoin de référence, car on se suffit de référence par rapport à justement al-hudur, la présence, l'indication de la présence, qui est soit la présence de al-mutakallim, soit la présence de al-mukhatab. طيب والدال على الغائب ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه أما هذا لا بد من مرجع يعود عليه والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى مثل ونادى نوح ربه مثل ونادى نوح ربه طيب Donc, on passe maintenant au dhamir qui va désigner l'absent. L'absent. Ce qui est mis donc pour désigner l'absent. Par contre, lui, contrairement au premier qui désignait la présence de al-mutakallim et de al-mukhatab, lui, il a besoin d'un marji'. Il a besoin d'une référence vers laquelle il va retourner. La base de la référence, la base de l'marji', ici, c'est qu'il doit précéder le dhamir. Ça, c'est la base. La base est que la référence, l'marji', doit être placée dans la phrase avant al-dhamir. D'accord? Que ce soit avant le dhamir, verbalement, yani explicitement, et aussi rutbatan. Rutbatan, yani au niveau de sa position grammaticale. Vous voyez, bon là, ça va être dur, les frères et les sœurs, car là, on rentre vraiment dans des règles de grammaire. Vous voyez? Donc forcément, pour la traduction, ça va devenir un peu compliqué. Al-Mu'im, je vais essayer quand même de, au lieu de traduire peut-être les mots, mais de vous expliquer avec des phrases, Inch'Allah, j'espère, les plus compréhensibles possibles. Donc, on a dit encore une fois, la base, c'est que la référence, al-marji', se trouve avant le dhamir, verbalement, mais aussi selon sa position grammaticale dans la phrase. Et le marji', d'accord, il faut qu'il soit yani, en adéquation et calqué sur le dhamir et vice-versa au niveau de l'expression utilisée mais aussi du sens utilisé. Ça, c'est la base. Donc, le cheikh, il a pris comme exemple un verset de la sourate Hud, alayhi salam, donc en disant Allah wa nada Nuh rabbahu. Le sens rapproché et Nuh yani a nada a appelé son seigneur. A appelé son seigneur. D'accord? Yani s'est adressé à son seigneur. Donc, pour ceux qui voudraient les références, c'est la sourate Hud, verset 45. Verset 45. D'accord? Donc, Nuh ici invoqua yani, son Seigneur. D'accord? Donc, ici, le dhamir, il est où? Il est au ha ici. Le dhamir, c'est hu dans Rabbahu. Rabbahu. Donc ce dhamir ici, il désigne un absent.
Donc il a besoin, comme on a dit tout à l'heure, d'une référence, d'un marji'. Il est où ce marji'? C'est Nuhun. Son marji', c'est Nuh. Yani, son seigneur, c'est-à-dire le seigneur de Nuh. Donc, on voit ici que Nuh, c'est la référence. Et on a dit que la base, c'est qu'il se trouve avant le dhamir. Donc là, il est bien avant le dhamir. D'accord? On a d'abord Nuhun, puis on a Rabbahu. Le hu, il vient juste après. Donc il est avant, non seulement verbalement, mais aussi au niveau de la place grammaticale. Alhamdulillah. Nuhun. D'accord? Ici, il est fa'il. Il est fa'il, Nuhun, Rabbahu. D'accord? Donc fa'il, il se trouve avant toujours, en première position, avant le maf'oul. D'accord? Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Et le ha ici, il est totalement en adéquation avec Nuh. Donc Nuh, c'est Muzakkar. Et Hu, c'est Muzakkar aussi. Alhamdulillah. Taïeb. Et le Hu, il renvoie totalement à Nuh, sans aucun problème. Fahada, al-asl, fi marji'i dhamir. Awalan, al-ghaib, la budda lahu min marji'. Al-mutakallim, yahtaj ila marji'. La. Al-mutakallim, la yahtaj ila al-marji'. اكتفاء بالحضور والمخاطب كذلك لا يحتاج إلى مرجع اكتفاء بالحضور الغالب وهو الذي يحتاج إلى مرجع والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة مطابقا له لفظا ومعنى والسبق إما باللفظ وإما بالرتبة طيب والمطابقة إما باللفظ وإما بالمعنى مثاله ونادى نوح ربه الها في ربه تعود على نوح نوح سابق على الضمير لفظا هذا واضح نوح ربه ورتبة لأنه فاعل والفعل مقدم في الرتبة على غيره هل هو مطابق لفظا ومعنى نعم لفظا ومعنى لأن أي الضمير في ربه ضمير مفرد مذكر والمرجع مفرد مذكر طيب دونك يدير الشيخ العثيمين بو ريزومي سي بيتي باراغراف مي انورم ان تيرم دو دانتيري سيانتيفيك يدي دونك لا باز با لا ريفيرونس المرجع لا ريفيرونس دو الضمير بروميرمون سي كو الغائب il faut obligatoirement pardon une référence contrairement al mutakallim et al mukhatab qui n'ont pas besoin eux de marji', car on va se suffire de leur présence. Taïb. El Ra'ib, lui, il a besoin d'un marji'. Et donc, la base dans le marji', c'est qu'il soit placé avant le dhamir, verbalement et en fonction de sa place grammaticale, et qu'il soit yani, en adéquation totale, hein, verbalement et dans la signification également. Donc, as-sabqu, donc la as-sabqu, le fait que al-marji' soit placé avant le dhamir, soit il est placé avant verbalement, ou bi-rutba, c'est-à-dire au niveau de sa son statut yani, grammatical, et également qu'il soit calqué sur le dhamir, de manière verbale, mais aussi dans le sens. Exemple qu'il a donné, donc, le shaykh, la parole d'Allah, « Wa nada Nuhun Rabbahu » Nuh invoqua son Seigneur. Donc le damir ici, il est où? C'est le ha de Rabbahu. D'accord? Le ha de Rabbahu, il renvoie à qui? Il renvoie, bien sûr, à Nuh, alayhi salam. D'accord? Donc Nuh, ici, il est passé où? Il est passé avant le damir. Verbalement, là c'est clair. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ Donc il est avant, verbalement, alhamdulillah. Mais aussi, رُتْبَةً. Pourquoi? Parce qu'on a dit que نُوح, ici on dit qu'il est fa'il. C'est-à-dire qu'il fait l'action. Grammaticalement, il est fa'il. Et le fa'il, c'est connu que dans la base, il est placé devant. D'accord? Il est mis en première place par rapport aux autres mots. Est-ce qu'il est en adéquation avec le dhamir verbalement et dans le sens, oui, ils sont totalement en adéquation du fait que le dhamir dans Rabbahu, il est mufrad mudhakkar, il est singulier masculin, et le marji', la référence, elle est aussi singulier masculin. Nuh, c'est singulier et masculin. Et le had Rabbahu, c'est singulier et masculin également. Non. طيب إن شاء الله يا إخوة نكتفي بهذا بإذن الله عز وجل ونواصل يعني هذه الدراسة المهمة في درسنا المقبل إن شاء الله تعالى والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته